Un sujet de thèse est souvent pointu, utilisant un vocabulaire spécifique qui peut rendre complexe sa compréhension par tous. C'est alors que des anglo-saxons ont une idée lumineuse. Organiser un concours où des doctorants n'ont le droit qu'à 3 minutes chronos en main pour expliquer au plus grand nombre leur sujet de thèse. C'est dans le cadre des Doctorales 2013 qu'ont eu lieu la première édition bretonne de ma thèse en 180 secondes. Julien Le Bonheur, responsable de la communication scientifique de Rennes 1 et formateur pour ce concours, nous en rappelle le principe.
Bonjour, 180 secondes pour expliquer ces travaux de thèse, c'est un défi que relèvent les doctorants bretons. Et il s'agit de devant un public, en direct, avec un micro et une seule diapositive PowerPoint non animée, d'expliquer donc en 3 minutes son travail de thèse de la façon la plus claire possible pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, pour un doctorant qui est le nez dans le guidon pendant ses 3 ans de thèse, c'est un exercice relativement difficile parce qu'il faut qu'il sorte de ce qu'il est habitué à faire tous les jours et qu'il s'adresse à un public très large. Alors, quel est l'intérêt pour le doctorant ? L'intérêt, c'est d'abord de lui permettre de parler de son sujet à tout le monde. Donc, ça veut dire que pour un recruteur, par exemple, quand il en arrivera à parler de son sujet de thèse, ce qui n'est pas tout de suite, ça sera intéressant pour lui. Il sera capable d'en parler le dimanche lors du repas familial, ce qui est quand même très important parce que les doctorants sont assez frustrés parfois de voir que personne ne comprend ce qu'il raconte, Et puis, ça les sensibilise aussi au dialogue science et société, qui est un point très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où la science prend énormément de place. Et sensibiliser les chercheurs dès leur berceau, si j'ose dire, dès leur tout début de carrière, au fait de s'adresser à tout le monde et de pouvoir expliquer clairement ce qu'ils font, ça semble quelque chose d'assez important pour le citoyen.
Vous êtes formateur dans le cadre de ma thèse en 180 secondes. Pourquoi les doctorants ont-ils besoin d'une formation et quel est votre rôle ?
En fait, moi je forme les doctorants à la médiation scientifique dans ce cadre très précis, hein, puisque l'exercice est très précis, 3 minutes, public, direct, etc. Et c'est pas quelque chose qui s'improvise. Certains doctorants sont doués dès le début pour parler de leur recherche, d'autres un petit peu moins. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ils ne sont pas dans le cursus classique, on n'apprend pas à parler de ces recherches à tout le monde. On apprend plutôt justement des connaissances extrêmement pointues, précises, et changer cette façon de s'exprimer de façon à pouvoir parler à tout le monde, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, en tout cas, c'est quelque chose de très répandu, c'est une formation qui est très courante. En France, c'est un petit peu moins répandu, même si des formations existent au niveau des écoles doctorales.
Et du coup, quel type d'exercice, on va dire, pratiquez-vous avec les doctorants pour améliorer leur aisance, par exemple, en public ?
Alors, on travaille avec un comédien de la Puzzle Company, Laurent Mazet, qui leur apprend à mettre leur voix en scène et leur corps en scène aussi. Donc, il va leur permettre de libérer un petit peu la parole, déjà, de leur faire travailler la colonne d'air, leur apprendre à respirer. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser auprès des auditeurs, j'ai un énorme rhume, donc la colonne d'air est un petit peu modifiée chez moi. Donc avec ce comédien, on va travailler donc sur l'expression, et puis moi, je vais leur apprendre à isoler dans leur sujet de thèse un point important, représentant de leurs travaux, mais qui soit évidemment très précis, puisqu'ils n'ont que 3 minutes pour en parler. Et donc, il y a un travail double sur le fond et sur la forme qu'on fait en formation auprès d'eux.
Justement, ne devrait-il pas y avoir une formation à la médiation scientifique dans tous les cursus des doctorants ?
Bien sûr, il faut des formations à la médiation scientifique pour les doctorants. Ça paraît important pour eux, ne serait-ce que parce qu'après, ils ont par exemple 10 minutes pour se faire recruter lors d'un concours d'enseignants-chercheurs. Ça existe, ça se développe et c'est appelé à se développer de plus en plus dans les années qui viennent, je pense.
Comment se sont déroulées les formations ?
Alors, on a eu une première session de 3 heures à la médiation scientifique calée sur les 180 secondes qui a eu lieu le 22 octobre dernier. Donc là, c'était assez particulier parce qu'on était en téléprésence, dans les salles de téléprésence. Il y avait donc des doctorants rennais et puis sur les écrans en face, des doctorants de Lorient et puis de Brest. Et après ces 3 heures, donc on a travaillé sur le fond et sur la forme avec le comédien, et puis avec un médiateur scientifique du Palais de la Découverte, qui est venu spécialement pour ça. On a une deuxième session de formation, juste l'après-midi, qui précède la finale des doctorales. Cet après-midi, ça va consister pour les doctorants à passer les uns après les autres devant leurs camarades, à se faire sélectionner par leurs propres camarades, les 8 finalistes passant le soir même pour concourir à la finale régionale. Donc là, pendant ce temps-là, on va les coacher. C'est-à-dire que là, on sera trop près de la finale pour modifier beaucoup de choses, que les doctorants qui nous écoutent se rassurent, leur discours va pas être remanié dans tous les sens. On va vraiment les accompagner, les motiver, leur donner, s'ils ne l'ont pas déjà eux-mêmes, la pêche nécessaire pour passer la rampe. Et donc le soir, ils vont pouvoir se lancer dans de meilleures conditions devant le public.
Comment s'organise le concours de ma thèse en 180 secondes?
Alors, en fait, à l'origine, c'est une idée de l'organisation des doctoriales 2013 en Bretagne qui a vu ce qui se passait au Québec. Au Québec, il y a l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir, depuis 2, 3 ans, organise donc ce concours qui est lui-même repris d'une idée venant d'Australie, qui est le 3MT, 3-Minute Thesis. Et il se trouve que l'an dernier, en France, l'Université de Lorraine a été pionnière, elle a repris le concours, elle a préparé un candidat. À l'échelle, on va dire, de la Lorraine et puis de la Belgique. Et ce candidat sélectionné est allé en finale au Québec, où il a remporté le prix européen. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, cet exercice, parce que vous avez vraiment des doctorants qui donnent tout ce qu'ils ont pour expliquer leur sujet de recherche. C'est vraiment très vivant. Il y a un côté chrono, hein, avec un pouet pour démarrer, une sonnette, un petit drapeau quand ils arrivent à 30 secondes de la fin, et puis un coup de klaxon si jamais ils dépassent. Donc, c'est vraiment assez festif comme exercice. Et du coup, ça met en jeu des jeunes chercheurs, et donc c'est très intéressant. Et donc l'Université de Lorraine ayant pris cette initiative, l'organisation des doctoriales cette année a trouvé intéressant de l'intégrer dans le dispositif doctorial qui se déroule sur une semaine, sur un effectif de 100 doctorants à peu près. Et on est parti là-dessus, donc avec une formation et puis une finale qui devait avoir lieu pendant les doctoriales, dans le cadre des doctoriales. Mais il se trouve qu'entre-temps, il y a une décision qui a été prise au niveau de la conférence des présidents d'université et puis du CNRS pour faire de cet événement un événement national français. C'est-à-dire que toutes les universités françaises sont invitées cette année à participer à ce concours. Et donc, ce qui était à l'origine le cadre des doctoriales, c'est devenu vraiment une finale régionale à l'échelle de la Bretagne. Notre finaliste va pouvoir, s'il donc remporte le prix du jury, aller à Paris, où il représentera la Bretagne à la finale nationale. Et à la suite de cette finale nationale, le gagnant ou la gagnante pourra aller au Québec pour participer à la finale internationale francophone, où là on aura le Québec, la Belgique, la France et je crois peut-être le Maroc, mais c'est pas encore certain. Donc c'est un vrai enjeu en fait. On est parti de quelque chose de très localisé, très sympathique et qui maintenant est vraiment dans un cadre national, ce qui met un peu la pression pour les doctorants, mais qui du coup leur donne vraiment une possibilité d'exposition médiatique et personnelle assez forte. Donc c'est tout à fait intéressant.
Alors, dans le cadre de ma thèse en 180 secondes, de quelle façon les doctorants sont-ils évalués?
Alors les doctorants sont évalués selon 3 critères. Le premier critère, c'est la vulgarisation. Il faut qu'ils aient fait l'effort de rendre leur sujet accessible à tous en utilisant des métaphores, des images, quelque chose qui permette vraiment de plonger dans leur sujet. Ensuite, ils sont jugés sur leur aptitude à communiquer, à impliquer l'auditoire dans ce qu'ils disent, par exemple, une technique toute bête, mais qui consiste à regarder, à balayer du regard la salle de façon que tout le monde se sente concerné, à se positionner, à se présenter sur scène de façon engageante, et puis surtout à mettre leur jeu de scène en accord avec leur discours. Et en dernier lieu, ils sont jugés, ça c'est le critère le plus pifométrique, mais peut-être aussi le plus important, sur leur capacité à transmettre leur passion. Ils sont lancés dans un travail qui dure des années, ils y consacrent beaucoup de temps, leur week-end, leur soirée, etc. Il y a bien quelque chose qui les anime, et ce quelque chose-là, on veut le voir briller dans leurs yeux, et on veut qu'ils en fassent un petit peu cadeau au public pour les impliquer dans leur discours. Donc le doctorant ou la doctorante qui réunit ces 3 critères-là, déjà est très très bien parti pour être sélectionné par le jury qui lui-même est composé en 3 parties. Il y a une première partie d'académiques, donc des enseignants-chercheurs par exemple, une deuxième partie de communicants et de médiateurs scientifiques et une troisième partie de représentants des entreprises. Et le président du jury, ce sera Michel Cabaret, qui est le directeur de l'Espace des sciences.
Est-ce que les doctorants sont libres dans la façon de présenter leur thèse ou dans la façon de choisir le média, par exemple? Ça peut être une chanson ou une scénette ou juste un simple exposé?
Alors oui, on a vraiment toute une variété de présentations. On a effectivement un doctorant qui chante à un moment, je ne dirais pas qui. On a des gens qui racontent des histoires et c'est un peu le dénominateur commun, quelle que soit la forme. On raconte une histoire, c'est souvent ça, un récit, et on implique comme ça le spectateur parce que tout le monde aime bien entendre une histoire. C'est un peu... En tout cas, nous, moi et Laurent, et puis le médiateur du Palais de la Découverte, Laurent Fournier, c'est ce que nous leur avons proposé de faire. C'est vraiment de construire un récit. C'est la façon la plus simple. Maintenant, il y a X façons de faire ce récit. On peut très bien imaginer une campagne publicitaire, par exemple. On peut vraiment faire beaucoup de choses.
Christophe Crévisi, enseignant-chercheur à l'école de chimie de Rennes, a été un membre du jury lors de la finale du concours de ma thèse en 180 secondes. Il nous parle du jury et des critères d'évaluation.
Bien, bonjour. Donc, le jury se compose tout d'abord de 9 membres qui ne sont pas que des personnes issues de la recherche, mais également des personnes du monde de l'entreprise et également des communicants.
Et donc, quel est le rôle des jurys lors de ces doctorales?
Alors en fait, le rôle du jury sera effectivement d'évaluer les présentations des doctorants. Donc les doctorants qui ont été sélectionnés dans l'après-midi, ils seront au nombre de 8, vont donc présenter en 3 minutes, c'est l'objectif, leur sujet de thèse. Et donc le rôle du jury sera effectivement d'évaluer la qualité de la présentation dans plusieurs aspects, l'aspect effectivement communication, capacité effectivement à vulgariser son travail, à le présenter à un large public. Alors évidemment, on regardera également la qualité de l'expression, la gestuelle, également la passion que le doctorant aura mis dans sa présentation, son implication.
Y a-t-il des critères précis liés justement à cette thèse en 180 secondes?
Effectivement, il y a des critères qui ont été établis, une notation très précise qui sera faite qui reprennent en fait les éléments que j'ai présentés. Il y a 3 critères sur la capacité à vulgariser, sur la communication orale, sur l'implication, donc qui donnent lieu à des notations et finalement les membres du jury attribuent des notes à chacun des points et puis après on somme tout simplement. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer.
Quel est votre avis sur l'importance pour les doctorants de savoir vulgariser leurs travaux?
Alors, l'intérêt est multiple. Tout d'abord, pour les scientifiques, d'une manière générale, les chercheurs, il est important d'être capable de vendre ce que l'on fait. C'est important vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des décideurs politiques. Pour eux également, c'est important dans le cadre de leur future recherche d'emploi. Effectivement, ce sont des choses qui sont certainement examinées par les futurs recruteurs. Comment le doctorant place finalement son sujet de thèse dans un contexte beaucoup plus large, socio-économique par exemple.
Ride off a lot, going real far. I'm a lone dog on the road. I'd love to eat chicken, that bacon, you would think I'm dreaming.
Your eyes go blink, blink, and all is forgotten when your eyes go blink, blink, and all is forgotten when your eyes go blink, blink, and all is forgotten when your eyes go blink, blink, all is forgotten. Your eyes go blink, blink, and all is forgotten when your eyes go blink, blink, and all is forgotten when your eyes go blink, blink, and all is forgotten when your eyes go blink, blink, all is forgotten.
Yeah, you know how it goes, y'all. If one girl's there, another will come. New madam, make me gears and stand up and raise my thumb. She's a loaded gun. Cool me down, for my brain is gone. If no savior come, I'm gonna burn my hand. Some guys wanna spy out on Telele. My wife's gonna cry out on Yelele. The dogs will sniff it and smell it, retell it. Then the press gonna buy it and sell it. So simmer down and please let me go. Raise the dimmer for the lights are too low. In this thriller, can't leave the field as a winner. So better watch out, Mr. Delele.
When your eyes go blink, blink, and all is forgotten. When your eyes go blink, blink, and all is forgotten. When your eyes go blink, blink, and all is forgotten. When your eyes go blink, blink, all is forgotten.
C'était le groupe Seed avec le titre Bling Blink. Après avoir entendu les formateurs et le jury, laissons la parole maintenant aux acteurs du concours de ma thèse en 180 secondes, les doctorants. Claudia Zea a remporté le prix du public avec un sujet sur l'étude des molécules actives naturelles issues de la biodiversité, évaluation de l'activité anti-fouling de leur écotoxicité. On écoute sa prestation avant de connaître son ressenti sur cette épreuve.
Souvenez-vous de la fameuse bataille navale de Trafalgar. Les bateaux français ne subissaient pas que des dommages provenant des canonniers anglais. Ils étaient aussi désavantagés par des petites traits vivantes capables d'agir sur l'issue des combats. En effet, sur toute surface immergée dans l'eau, comme les coques des bateaux, va se produire une colonisation gênante d'organismes vivants. Tout commence par une adhésion bactérienne qui conduit à la colonisation d'organismes supérieurs comme les algues et les coquillages. Ceci est appelé biofouling. Ce problème était bien compris par les Anglais. Ils savaient que le biofouling affaiblissait leurs coques, alourdissait leurs bateaux et donc gênait les manœuvres. Ils ont donc décidé de placer des plaques de cuivre sur les bateaux. Si les Français avaient compris plus tôt ces désavantages, l'issue de ces combats aurait pu être différente. Ce problème existe jusqu'à maintenant. Savez-vous que le coût du biofouling est estimé à plus de 4 000 milliards d'euros par an? Les solutions données récemment sont basées sur des peintures toxiques avec des métaux lourds comme le cuivre ou l'étain. C'est très efficace, mais ça cause beaucoup de dégâts, en tuant des organismes marins importants pour le bon fonctionnement de l'écosystème. L'Organisation maritime internationale a donc interdit ce type de substances. On a donc besoin de nouveaux produits plus éco-responsables. Les produits d'origine marine sont une alternative prometteuse parce que les biomolécules sont produites dans les mêmes milieux et sont facilement biodégradables. Ma mission est donc de retrouver une espèce de micro-algue capable de produire des molécules avec une activité anti-fouling efficace et avec un degré de toxicité tolérable. Le biofouling commence par une simple adhésion bactérienne et c'est à ce niveau que je cherche à agir. Pour cela, j'ai choisi d'adopter une stratégie militaire qui cherche à établir la paix avec le monde des bactéries, car je ne cherche pas à les exterminer à coups de peintures toxiques. Je cherche une molécule de combat tactique dont le but est d'éliminer les messages échangés entre les bactéries, car c'est en se communiquant qu'elles réussissent leur conquête. Mais dans ce combat, les bactéries construisent un sort de forteresse appelé biofilm, pour mieux coloniser les surfaces. Ma molécule donc pourra aussi chercher à désorganiser sa forteresse en envoyant des faux messages un peu pour les tromper. Un peu comme l'histoire de la tour de Babel. La communication devient impossible. Donc, plus de construction de cette tâche supérieure, pas de dégâts pour mes coques de bateau et pas de funérailles pour mes bactéries. Lors de la première année de ma thèse, j'ai réussi à trouver une espèce de micro-algue capable d'inhiber plus de 50% de l'adhésion. L'étape suivante est connaître ma molécule stratégique et sa tactique de combat. Merci beaucoup. Bon, je recherche des biomolécules naturelles pour empêcher l'encrassement sur les bateaux. Bon, c'est un exercice qu'il fallait faire parce que c'est important de montrer ce qu'on fait dans le monde scientifique à tout le monde. On doit être au courant de tous nos travaux. Et je pense que tous les doctorantes ont mis un peu d'effort dans cet exercice et il y a toujours un gagnant. Et bon. Merci à tous pour me soutenir.
Et quelle a été la plus grande contrainte, à part le temps, pour réaliser cet exposé ?
Pour mon côté, c'était les langues. Parce que moi, je ne suis pas francophone, donc il fallait former un discours avec les bons mots jolis en français. Et c'était la plus grande contrainte. Et aussi chercher les mots compréhensibles pour tout le monde.
Et combien de temps ça t'a pris environ de réaliser cet exposé entre le début ? Les premiers brouillons et ce qui s'est passé aujourd'hui.
C'est un grand travail parce que j'essayais d'expliquer un peu à tout le monde. Donc, ils disaient, est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que je fais ? Et ils s'étaient intéressés. Donc, j'essayais d'expliquer et petit à petit, les idées arrivaient. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas dire 3-4 heures. Je pense que ça a été un travail d'une semaine peut-être.
Et vous avez eu des formations donc, durant plusieurs jours. Et Qu'avez-vous fait durant ces formations ?
On a eu une formation d'une heure et ils nous ont expliqué l'objectif de cet exercice, et comment il fallait faire l'exercice, quel était le point fort qu'il fallait montrer dans cet exercice. Et après, on a choisi juste 8 doctorantes pour l'étape finale. Et ils nous ont coachés, donc ils nous ont dit à niveau gestuel, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, s'il fallait changer le discours.
Est-ce que tu penses que c'est important pour vous les doctorants de savoir vulgariser vos travaux ?
Oui, surtout pour ceux qui à la fin veulent être professeurs. Il faut savoir montrer leur passion de la recherche à leurs étudiantes et avec des mots que ça soit compréhensible.
Marianne Prévost, quant à elle, a remporté le prix du jury avec la thèse suivante « Démonstrateur des potentialités applicatives des clustomésogènes dans les dispositifs dédiés à l'affichage, à la détection et aux télécoms ».
Imaginons un monde où nous pourrions lire notre journal sur notre rideau de douche, où nous pourrions changer selon nos envies la couleur de nos vêtements ou la teinte de nos verres de lunettes. Et imaginons que dans ce monde, nous puissions devenir l'homme invisible. Avec une cape recouverte d'écran, c'est possible. La science se nourrit souvent de la fiction pour concevoir de nouvelles technologies. Aussi, nous avons choisi de relever le défi d'un monde où chaque objet pourrait devenir à notre guise un support d'affichage. Vous avez sans doute entendu parler du système RVB. Il s'agit des initiales des 3 couleurs utilisées dans l'affichage. Pour diffuser l'écran à grande échelle, nous devons donc fabriquer à bas coût 3 émetteurs de lumière, dans le rouge, dans le vert et dans le bleu. En plus, si l'on veut pouvoir les plier, les tordre ou les enrouler, ils doivent être souples. Au laboratoire où je suis doctorante, des chercheurs ont mis au point des matériaux capables d'émettre une lumière rouge très intense, à base d'éléments chimiques très bon marché, plusieurs centaines de fois moins chers que ceux composant les émetteurs rouges actuels. Ces matériaux, connus sous la douce dénomination de clustomésogènes, ont en plus la particularité de pouvoir être déposés sur n'importe quel type de surface. Et peut-être même, dans un futur proche, pouvoir être imprimés par jet d'encre. Comment produisent-ils leur lumière ? Eh bien, pour certains matériaux, lorsqu'on les soumet à un champ électrique et qu'une charge positive rencontre une charge négative, il y a émission de lumière. Un chercheur aux États-Unis a par exemple fait briller un cornichon sur ce principe. Mais le cornichon a une structure labyrinthique. Cela signifie que les charges ont du mal à se retrouver pour s'associer. Il faut donc injecter beaucoup de courant, si l'on veut ne serait-ce qu'une faible émission de lumière. Alors en termes d'affichage, ça sent un peu le vinaigre. Pas de problème de ce côté-là avec nos matériaux. Les charges n'ont pas d'impasse et au contraire n'ont qu'une voie à suivre. Mais il reste un détail à régler. Un détail qui devrait me prendre 3 ans. Les charges positives et négatives ne se déplacent pas à la même vitesse. Ainsi, les charges les plus rapides s'accumulent et attendent leur partenaire. C'est de l'énergie gaspillée. L'objectif de ma thèse est de faire en sorte que les charges arrivent à la même vitesse et qu'aucune ne reste sur une voie de garage. On peut faire l'analogie de ce casse-tête avec le montage d'un meuble de la célèbre marque suédoise. Si l'on assimile les charges positives aux vis et les charges négatives aux perçages, il faut faire en sorte qu'à la fin, on n'ait pas de vis inutilisées. Alors, prêt à changer de rideau de douche ? Ou encore mieux, à apprendre à écrire le mot « claustomésogène » ? Alors, l'idée que j'ai essayé de simplifier ici, c'est qu'on aimerait faire des écrans à partir de tout type de surface. Et pour ça, il faut trouver des matériaux qui puissent être intégrés dans des écrans, qui puissent être luminescents, donc dans les trois couleurs principales de l'affichage. Et nous, on travaille sur le rouge. Et la première étape, c'est d'abord de pouvoir l'appliquer sur n'importe quel type de surface et ensuite de faire les dispositifs.
Et pourquoi avoir participé à ce concours de la thèse en 180 secondes ?
Alors au départ, c'est plutôt un hasard. Et ensuite, j'ai trouvé que j'étais vraiment encadrée par mon équipe de thèse. Et du coup, j'ai eu envie de leur faire le plaisir ce soir de me donner à fond.
Et comment s'est passée la rédaction de cet exposé ? Combien de temps ça t'a pris ?
Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et surtout, j'ai demandé à beaucoup de personnes de m'aider, notamment à mon frère qui... m'a vraiment pas mal aidé pour le rideau de douche, par exemple, c'est son idée et c'est très chouette. Et non, ça prend du temps, mais on se dit que voilà, qu'on fait ça pas forcément que pour soi, mais aussi pour les autres, et ça fait de la communication pour le laboratoire. Et je crois que c'est ce que je trouve chouette dans ce principe là.
Oui, d'ailleurs, que penses-tu du fait du besoin pour les doctorants de savoir vulgariser sur leurs travaux?
Bah, j'avais une assez mauvaise image, je pense, des entretiens d'embauche dans des boîtes, par exemple. Et je pense que maintenant, je me rends compte que si on me demande de parler de ma thèse, il ne faudra vraiment pas que je rentre dans les détails. Et il faudrait que je reste peut-être simplifié à fond. Mais je pense que c'est ça que ça m'a appris aujourd'hui et qu'il faut vraiment vulgariser le travail si on veut être compris, même pour des gens qui sont spécialistes du domaine. Et qu'en tout cas, ça fait du bien de revenir aux bases et après d'avoir des questions qui sont plus poussées sur le sujet.
Donc, tu penses que ça peut être utile pour plus tard, on va dire, pour après ta thèse, si tu veux trouver un emploi ?
Oui, et je pense aussi que ça peut être intéressant quand on veut rencontrer des gens en conférence. Et... donc ça peut me servir effectivement pour trouver un futur emploi ou même simplement pour avoir des collaborations avec d'autres laboratoires.
Et vous avez eu des formations pour cette thèse en 180 secondes. Comment cela s'est-il passé ?
On a eu plusieurs formations. D'abord, peut-être une formation avant même d'avoir réfléchi à ce qu'on pouvait dire en 180 secondes, donc avec un comédien et avec une personne qui fait de la médiation scientifique. Et donc, on a pu encore les avoir cet après-midi pour nous et avoir leurs conseils toute l'après-midi. Je pense que c'est grâce à eux aussi qu'on a réussi à produire tous 180 secondes et pas une seconde de plus.
C'est ainsi que s'achève ce numéro du Labomatique, au sujet du concours de ma thèse en 180 secondes. Expliquer son sujet de thèse en 3 minutes n'est pas un exercice facile et demande d'être travaillé. Mais bien préparé, il permet de se faire comprendre par un large public. Et savoir vulgariser ses travaux peut s'avérer très utile. Vous pouvez justement retrouver des informations sur ce concours ainsi que le podcast de l'émission sur radiocampusrennes.fr. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes avec le Labomatique.